Donc bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence Edeni. Donc cette conférence, pour information, est enregistrée en live et elle sera disponible pour réécoute sur notre podcast sur edeni.fr à partir de la semaine prochaine. Alors pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, qu'est-ce qu'Edeni? Alors Edeni, en fait, c'est un organisme de formation en transition écologique. Alors, on a été récemment désigné comme l'un des 5 meilleurs lieux pour se former à la transition écologique par Care News, donc on est plutôt fiers. Et en fait, Edeni, la raison d'être, c'est qu'on est parti du constat que de nos jours, on pouvait se former à tout, surtout, sauf en écologie. Et en fait, on sait à quel point il est nécessaire et urgent d'avoir une vision globale des enjeux actuels pour agir de manière concrète dans nos vies personnelles et professionnelles. Donc, pour vous accompagner tous les individus qui ont envie de se lancer dans cette transition, on a bien entendu nos formations, mais on propose aussi en plus des cycles de conférences tous les mois qui traitent de sujets aussi variés que l'écologie, la santé et l'éthique. Alors cette semaine, on a décidé de traiter un sujet qu'on évoque régulièrement avec les participants à nos formations, qu'ils soient parents, jeunes parents ou pas du tout. C'est comment accompagner les enfants dans leur éveil écologique. Alors on sait très bien que la découverte de la nature, l'exploration au quotidien de la biodiversité, le respect de soi et des autres sont essentiels pour l'équilibre et le développement de nos enfants et leur éveil écologique. Mais ce n'est pas toujours évident en tant que parents ou membres de la famille ou éducateurs d'éduquer nos enfants en accord avec nos valeurs et nos principes et notre souhait de préserver l'environnement. En fait, on se pose pas mal de questions. Comment inspirer nos enfants alors qu'on vit en ville? Quels sont les contenus et les supports pour les aider à respecter leur environnement et la planète? Comment les aider à prendre soin d'eux et à avoir envie de prendre soin des autres, de tous les autres êtres vivants? Et puis aussi, au final, comment écouter leurs doutes, comment écouter leurs peurs face aux enjeux environnementaux, puisque parfois ça peut être un peu anxiogène. Et en fait, on est de plus en plus nombreux à se poser ces questions et à essayer de trouver des nouvelles façons d'inspirer les plus petits et les plus jeunes. Et à leur faire embrasser la transition écologique de manière la plus joyeuse possible, en fait. Donc, du coup, on va essayer d'y voir ensemble un peu plus clair, de dresser des pistes de réflexion entre nouvelles fictions, gestes du quotidien et activités inspirantes. Donc, moi, je m'appelle Amandine, je suis mentor Edeni. J'accompagne les parents et les parents en devenir dans le cadre d'une classe virtuelle sur la parentalité éco-responsable. Notre prochaine session démarrera mi-janvier. Et ce soir, du coup, j'ai le plaisir de recevoir pour cette conférence trois invités pour échanger sur notre thématique du jour. Donc, on aura Barbara Kadji, qui est fondatrice de Merci Mercredi. Donc, du coup, Merci Mercredi propose des ateliers à recevoir hein, tous les mercredis, du coup, comme l'indique le nom, à recevoir par mail et puis tous les mois par la poste pour occuper les enfants tout en les sensibilisant aux questions environnementales et en développant leur créativité. Nous recevrons aussi Thibaut Pinsard, qui est fondateur des Déclics. Donc, du coup, Thibaut a monté les Déclics, qui sont des activités extrascolaires en plein air pour les jeunes citadins en manque de nature. Donc, l'idée, c'est de se reconnecter à la nature, à soi et aux autres, puisqu'en plus de sensibiliser les enfants à l'environnement, les activités proposées par les équipes des Déclics les aident à se reconnecter à leurs émotions et à mieux les comprendre. Et enfin, on reçoit normalement, j'espère qu'elle a pu se connecter, Angela Léry. Oui, tout à fait. Du
Ça
coup,
marche.
Angela est cofondatrice de la Cabane Bleue. Donc, la Cabane Bleue est une maison d'édition jeunesse qui propose des albums documentaires, des livres illustrés, conçus en France de manière éco-responsable, pour sensibiliser les enfants à la protection de la planète et de ses habitants. Voilà. Donc, bonsoir à tous les trois. Je suis ravie de vous recevoir. Donc, on va démarrer par une série de questions qu'on a préparées avec l'équipe Edeni durant les premières 25 minutes. Et ensuite, on passera à 15 minutes de questions-réponses avec toutes les personnes qui sont présentes. Voilà. Donc, on va démarrer sans plus tarder avec notre première question. Pourquoi est-il important de se reconnecter à la nature pour tout le monde et en particulier pour nos enfants? Et je vais laisser tout d'abord la parole à Thibaut des Déclics.
Oui. Alors déjà, pour mettre peut-être un peu plus de contexte dans cette question, bon, peut-être pour commencer, un petit chiffre. Donc, il y a un rapport de Santé publique France qui a été publié en 2015 qui dit que 4 enfants sur 10 ne jouent jamais dehors pendant la semaine. Donc, c'est sur les temps extrascolaires, mais donc, du coup, c'est. Bon, voilà, ça pose un peu le décor et de plus en plus, et même nos générations, enfin, nos sociétés fabriquent, entre guillemets, des générations de plus en plus qui vivent de plus en plus à l'intérieur. Et donc, c'est ce qu'on appelle en anglais the indoor generation. Et il y a une petite statistique aussi rigolote au Royaume-Uni qui dit que trois enfants sur quatre passent moins de temps dehors que des prisonniers. Donc, ils passent moins d'1 heure par jour. Donc voilà, c'est encore pire en Grande-Bretagne. Donc pourquoi il est important de reconnecter les enfants à la nature? Bah, tout simplement parce qu'ils en ont besoin, ils en ont besoin pour leur développement. Donc il y a plein de bienfaits du contact avec la nature pour les enfants. Donc parmi les principaux bienfaits, il y a notamment le fait que pour les enfants, en fait, évoluer dans la nature sur des terrains variés va leur permettre de prendre des risques. Et donc de se faire de plus en plus confiance. Donc du coup, ça va améliorer leur confiance en eux. Un second bienfait, c'est que ça va le fait de ne pas être enfermé entre quatre murs, ça va leur permettre d'améliorer leur concentration et de surtout réduire leur stress. Après, il y a aussi plein de bienfaits en termes de santé. Bon, ça renforce le système immunitaire d'être souvent dehors. Ça améliore leur motricité fine et globale, puisqu'ils vont pouvoir manipuler plein d'objets naturels, ils vont pouvoir se défouler. Dans la nature, sur des terrains variés. Et enfin, bah, puisque c'est la thématique, bah, du coup, le fait d'être en contact avec la nature, ça leur permet de mieux la connaître et donc ça leur donnera envie de mieux la protéger plus tard. Et nous, ce qu'on observe rapidement au déclic, c'est que bah, il y a certains moments où pour pas mal d'enfants, ils ont peur de la nature, ils ont peur des petites bêtes, ils ont peur même de s'asseoir dans l'herbe. On a beau avoir une superbe herbe, par exemple, au bois de Boulogne, au jardin du Précatelan, je ne sais pas si vous voyez. Et quand on fait certaines activités, il y a des enfants qui veulent pas s'asseoir dans l'herbe parce qu'ils trouvent ça sale. Et donc ça, c'est un petit peu inquiétant. Et donc on est là pour essayer d'améliorer tout ça.
Merci Thibaut. Barbara?
Oui, Thibaut a rappelé l'importance de se reconnecter à la nature au niveau santé. Ça, c'est une des raisons, mais il y en a plusieurs des raisons. Au niveau santé, d'ailleurs, il y a une étude en 2013 en Espagne, par un centre de recherche en Espagne, sur 36 écoles. Ils ont fait une étude sur 36 écoles où ils observaient des enfants qui étaient exposés à des espaces verts. Et justement, ils montraient que globalement, être exposé aux espaces verts, ça permettait un meilleur développement général, physiologique et psychologique. Et même, on sait de toute façon, maintenant on le sait, quoi, qu'il y a des bienfaits au niveau de la santé. Et même il y a 60 ans déjà, il y avait le pédagogue Freinet qui montrait l'importance de se connecter à la nature justement pour développer les habiletés sociales. Donc maintenant, il n'y a plus de doute. Mais pour moi, il y a une raison quand même majeure et même primordiale de se reconnecter à la nature. Et c'est plus une nécessité, un besoin et un devoir citoyen, en fait, de se reconnecter à la nature. Et parce qu'aujourd'hui, face à l'urgence climatique, face à la crise climatique, on est dans une société complètement hors sol et on a besoin de se reconnecter justement pour comprendre et pour pouvoir justement agir et pour pouvoir se mobiliser. Donc pour moi, avant tout, c'est un devoir citoyen. Vraiment, la reconnexion à la nature.
Presque un acte militant.
Voire même un devoir de citoyen. Voilà.
Très bien. Merci Barbara. Et du coup, Angela, après l'apport santé, l'acte citoyen, toi, quel est ton point de vue?
Oui, alors bah, ils ont dit effectivement plein de choses très intéressantes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans des sociétés très déconnectées, urbanisées, où le rapport marchand est roi. Donc, c'est vrai qu'il y a un rapport à la nature qui est un petit peu enfin, qui est biaisé, je trouve. Et quand on parle effectivement. Thibaut parlait tout à l'heure des enfants qui trouvaient que la nature était sale. Ça aussi, c'est ce qu'on leur transmet en fait. C'est nos peurs à nous, la peur, bah, voilà, de les laisser en fait sortir et découvrir par eux-mêmes. Et en fait, c'est ça, moi, le troisième point que je pourrais peut-être donner, c'est que pour moi, là, se reconnecter à la nature, c'est se reconnecter à soi-même. Et les enfants, ils ont besoin de ça. En fait, un enfant, il naît, il est dans l'innocence, il est dans la découverte. Et un enfant, on le met dans l'herbe, il découvre, il est content, il touche. Il y a vraiment les cinq sens en éveil. Et pour moi, c'est ça, se reconnecter à la nature, c'est se reconnecter à soi-même et donc se reconnecter aux autres, attention. Et alors là, du coup, on a une synergie, on a des choses importantes qui se passent parce qu'on est connecté à son environnement. Nous, avec la cabane bleue, c'est ça qu'on a essayé de faire aussi, c'est de proposer des livres aux enfants pour qu'ils puissent ne pas avoir peur de la nature, se dire qu'ils en font partie. La nature, c'est le grand tout, en fait, et nous, on est une cellule de ce grand tout. Et on ne peut pas en fait être dissocié du reste. Ça, c'est très important. Et nos sociétés individualistes, elles nous dissocient en fait beaucoup de la nature. Elles nous mettent en fait finalement contre la nature alors qu'on est dedans. On est la nature. Nous sommes la nature. Il y a un livre que j'aime énormément de Marie Gervais qui s'appelle L'école buissonnière, où justement elle parle de ça et vraiment du fait de laisser les enfants à la découverte, en fait, de ne pas avoir peur. Ils doivent faire eux-mêmes en fait leurs propres expériences et à nous en fait aussi de braver nos peurs par rapport à ça et de les laisser monter, grimper dans les arbres, tomber un petit peu, toucher l'herbe, manger de la terre. Voilà.
Alors, un des points qui est souvent soulevé par les parents qui participent à nos formations, c'est de dire bah oui, mais bon, nous on est des citadins, on vit en ville et finalement le seul espace de nature auquel on a accès, c'est le petit parc en bas de chez nous. Et on n'a pas forcément la chance d'avoir une maison de famille à la campagne ou la possibilité de partir régulièrement en vacances en pleine nature. Donc, du coup, finalement, comment on fait quand on est citadin et qu'on a juste accès au parc d'à côté pour stimuler justement cet amour de la nature à nos enfants, quoi. Barbara, si tu veux.
Oui, c'est vrai qu'on est tous confrontés à la même problématique, hein, justement. En plus, avec le confinement, on a tous été enfermés, etc.
Exactement.
Et puis même aujourd'hui, on est plus de 54% de la population à vivre dans des villes. Donc, c'est sûr qu'on se pose la question comment se reconnecter à la nature dans ces conditions. Mais pour moi, l'idée, c'est de changer de posture et de se dire que la nature, en fait, elle est partout. Et il y a trois façons, en fait, de se reconnecter à la nature, où qu'on soit. C'est d'abord d'observer, ensuite d'accompagner. Là, le rôle des parents est très important. Et d'apprendre sur la nature. Donc, observer, c'est d'abord ralentir, prendre le temps de regarder, chose qu'on fait rarement, mais... Et on peut le faire où qu'on soit. C'est même regarder par la fenêtre l'arbre au printemps, les bourgeons, le ciel. Le ciel est toujours accessible. Ça va être aussi écouter le chant des oiseaux. Par exemple, nous, avec Merci Mercredi, justement, on a tous des petits ateliers pour reconnaître le chant des oiseaux. Et ça, on peut le faire où qu'on soit. Après, c'est aussi apprendre avec les éléments qu'on a autour de soi. C'est jouer avec des feuilles, avec des morceaux de bâton qu'on peut trouver un peu partout. Après, dans accompagner, il y a le rôle crucial des parents et notamment, il y a l'écrivain Simpson dans son livre « Comment élever un enfant sauvage en ville » dit qu'on est des passeurs de nature. Donc là, l'idée, c'est que vraiment, les parents ont un rôle pour accompagner, prendre le temps, leur faire poser des questions, se questionner. Et ça, c'est aussi un moyen de se reconnecter, où qu'on soit. Et d'ailleurs, avec Merci Mercredi, on avait fait un herbier urbain. Et l'idée, c'était d'inviter les enfants à parcourir leur quartier pour voir les herbes sauvages qui vivent à côté de chez eux. Donc, c'est dans les interstices des trottoirs, sur les murs. Et ça, typiquement, on peut le faire où qu'on soit. Et enfin, c'est apprendre sur la nature. Donc, c'est se renseigner, avoir des outils pédagogiques pour connaître la nature et donc, du coup, éveiller la curiosité.
Je pense que ça va faire pas mal écho avec ce que Thibaut peut proposer du coup au sein des déclics, les quelques exemples que tu as donnés. Donc Thibaut, si tu veux nous en dire un peu plus sur comment reconnecter les petits urbains à la nature.
Du coup, la première chose qu'il faut dire, c'est pour compléter ce que dit Barbara, c'est que il faut pas penser qu'il faut obligatoirement prendre la voiture et faire 200 km, pardon, pour trouver de la nature. Nous, on part d'une démarche assez pragmatique et il faut pas non plus y mettre 10 000 contraintes et être idéaliste sur ce point et de prendre la nature là où on peut la voir et où on peut aller. Et donc, même si elle n'est pas présente en très grande quantité, notamment à Paris, il y a quand même pas mal d'espaces verts. Il y en a 534 à Paris exactement. Et rien que le fait de passer 30 minutes par jour pour un enfant dans un parc, s'il ne peut pas lui bénéficier de jardin à la maison, c'est super. Et comme disait Angela avant, il faut aussi du coup leur donner l'opportunité d'être en contact avec la nature, donc de ne pas juste les laisser dans un parc et leur dire tu as juste droit de gambader sur ce périmètre, il faut les laisser monter aux arbres, il faut les laisser jouer dans la boue, manipuler des feuilles, de l'herbe, des bouts de bois, se salir les chaussures. Et donc en fait, l'important, c'est de faire en sorte que le contact avec la nature ne soit pas quelque chose d'exceptionnel et que, voilà, qu'il ne soit pas exceptionnel, qu'il ne soit pas juste une fois par an en vacances quand on fait, je sais pas, de la randonnée dans les Alpes, mais qu'il soit bien quelque chose de régulier, ancré dans le quotidien pour justement avoir tous ces bienfaits dont on a parlé juste avant. Et après, si on veut un peu plus de nature, on est quand même pas mal gâtés en France avec plein de parcs régionaux, notamment en Île-de-France avec les Fontainebleau, la vallée de Chevreuse, le Vexin, qui est accessible très facilement en train. Et en plus, maintenant, il y a pas mal d'applis ou de médias qui référencent plein de randos ou plein d'activités sympas à faire dans ces environs-là. Et donc, du coup, pour préciser un peu, nous, au Déclic, donc c'est vraiment ça qu'on prône. Et donc, du coup, on fait des activités en plein air dans les coins de verdure le plus proche des citadins.
Donc du coup, enfin si je résume un petit peu ce que vous avez dit jusqu'à présent avec Barbara, c'est plutôt qu'il vaut mieux privilégier au final la régularité des rapports avec la nature plutôt que l'intensité, un peu l'exemple que tu donnais avec la randonnée annuelle dans les Alpes. Enfin finalement c'est plus la quantité. De contact avec la nature qui aide à développer ça, si je comprends bien quoi. Du coup, Angela, toi tu es d'accord aussi avec ce point de vue du...
Oui, je suis complètement d'accord avec ce point de vue parce que finalement la nature elle est partout, on peut la trouver en ville effectivement, c'est sûr, elle est plus restreinte qu'en campagne. Moi j'habite à la campagne, donc c'est vrai que c'est un cadeau de tous les instants, mais finalement on peut la trouver en ville, dans des parcs, dans des squares, sur même le trottoir en fait on peut trouver des petites herbes, des insectes. Il faut juste effectivement être vraiment dans l'observation. Je pense, enfin c'est vraiment l'idée aussi d'être toujours en contact, de sortir et de s'émerveiller. Tout de suite on sort avec ses enfants, on regarde le temps qu'il fait, ça aussi c'est on respire, qu'est-ce qui se passe, du coup il y a ce qui fait beau, etc. Donc il y a vraiment ce côté émerveillement. Et puis quand on est en ville, même à Paris, c'est quand même une ville où il y a des espaces verts. Là je rebondis sur ce que disait Thibaut, on a des forêts magnifiques, on est le troisième pays européen pour sa surface forestière, la France, donc c'est quand même assez important. Dans le 78, il y a des forêts superbes, on peut y aller en train, tout ça. Donc on n'est pas obligé d'attendre juste l'été pour la mer et l'hiver pour la montagne, on peut y aller d'une autre manière. Et je voulais rajouter aussi qu'on peut amener la nature à la maison. Ça, c'est important, c'est-à-dire laisser les enfants prendre des cailloux, des pierres et les laisser faire des activités comme ça que Marie Jarvet appelle des activités buissonnières. Donc, on amène la nature dans la maison, on laisse les enfants utiliser les petites pierres, les petits bois, les petits bouts de bois pour se faire des petites maisons avec leurs jeux qu'ils ont en plastique, leur Playmobil et toutes les petites choses qu'ils ont. Et voilà, on mélange tout ça, on mélange les univers et ça, ça me paraît aussi quelque chose de très, très important.
Plein d'idées pour les prochains ateliers de Merci Mercredi, du coup. alors, une autre...
Et peut-être pour compléter...
Vas-y, bien sûr, Thibaut, vas-y.
Je ne sais pas si... Oui, peut-être pour compléter, du coup, dans le prolongement de ce que vient de dire Angela, aussi, il y a souvent des petites bêtes dans la maison. Et donc, du coup, moi, je me souviens très bien que chez moi, la volonté c'était plutôt de les éradiquer, ces petites bêtes, mais toutes les bêtes ont, enfin tous les fourmis, les les papillons, les abeilles ou
les
même
araignées.
Les guêpes ou les araignées ont toutes une utilité pour la biodiversité. Et donc faut pas forcément, enfin, c'est pas forcément bien de vouloir les éradiquer, et en tout cas de la maison. Et donc, du coup, bah, plutôt les accompagner les enfants dans l'émerveillement de voir des petites bêtes, et potentiellement plutôt les apprivoiser, ou alors les accompagner pour les remettre dehors. Enfin voilà, c'est aussi des petites actions comme ça du quotidien qui montrer aux enfants que la nature est pas hostile, et que faut juste apprendre à vivre avec, et parce qu'on fait partie de la nature, comme disait Angela ou Barbara, je sais plus.
Du coup, une autre question qui revient assez souvent auprès de nos parents qui participent à nos formations, c'est OK, alors si on arrive à stimuler tout cet amour pour le vivant, pour la nature, du coup, est-ce qu'on doit en même temps alerter nos enfants sur tout ce qui est en train de se passer en fait dans notre environnement? On parle de plus en plus du changement climatique, de la perte de biodiversité. On parle aussi de plus en plus d'effondrement. Donc, est-ce qu'on doit parler de ça à nos enfants? Et puis, si oui, comment le faire, en fait? Et ça, c'est un des gros challenges pour les parents d'aujourd'hui. Angela, si tu veux démarrer.
Oui, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire avec la cabane bleue, c'était de proposer justement des livres qui parlent de ces sujets-là aux enfants, et de manière positive. Et je pense que c'est ça la solution, elle est là, elle est surtout de leur montrer le côté positif, sans nier le côté négatif, attention. On n'a pas dit de ne pas leur dire, mais par contre, il y a une manière de communiquer, il y a une approche à avoir, c'est ce qu'on essaye de faire. Et moi, je pense que cette approche, on la trouve dans l'émerveillement, dans le « waouh ». C'est un des principes, en fait, quand on construit des projets, c'est l'importance, c'est de partir du rêve, en fait. Il y a une citation que j'aime beaucoup d'un certain Nicolas Shakespeare, c'est un journaliste anglais, et il dit « Ils ont échoué car ils n'ont pas commencé par le rêve ». Et en fait, je pense que c'est à partir du moment où on commence par le rêve, la réalité, elle est là, les faits sont là, mais ça donne envie d'aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir parler aux enfants, nous, dans nos livres, d'un ours polaire, de lui montrer, il naît, c'est trop mignon, il est avec sa maman dans son terrier, puis après, il sort, et là, il va rencontrer des obstacles, forcément, mais comme nous, quand on sort de chez nous, il y a des obstacles, et puis il va rencontrer d'autres espèces, et il va partager, et puis, il y a des menaces qui pèsent sur lui aussi, et effectivement, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent autour de cet animal, mais on leur parle de son environnement global. Donc, encore une fois, on n'est pas sur juste le négatif, juste le positif. On est sur quelque chose de global et de positif, en fait. Je pense qu'il y a vraiment cette particularité, c'est de savoir parler des choses de manière positive, sans faire de morale aux enfants, sans les culpabiliser et sans les traumatiser avec des peurs qu'on a également, nous. Ils sont là, de toute façon, les enfants, ils vont grandir. Et je pense que l'idée, c'est plutôt connectez-vous à votre environnement, aimez-le. Et vous serez des adultes accomplis qui n'auront pas peur justement d'y aller, même si les choses ne seront pas forcément faciles.
Merci Angela. Du coup, Barbara, tu voulais rebondir aussi?
Oui, j'ai le même point de vue qu'Angela. C'est d'abord, c'est sûr que déjà, est-ce qu'il faut en parler? Oui. Il y a même une pédopsychiatre qui s'était penchée sur la question, Colleen Storder, qui a fait un super article là-dessus sur comment en parler, etc. Il faut en parler, donc dire les choses, dire la vérité, c'est d'une part c'est ça. Donc on ne va pas cacher, on ne va pas édulcorer, on va parler bien de perte de biodiversité. Mais par contre, il faut trouver les bons mots. Et c'est une autre... pédopsy aussi qui parlait de trouver les bons mots, et elle expliquait notamment de séparer le factuel de l'inconnu, c'est-à-dire qu'on va donner vraiment les faits, perte de biodiversité, mais on va parler d'inconnu, et donc là partir dans un discours traumatisant qui va être on va tous mourir, etc., évidemment non. Et après je rejoins complètement Angela, c'était de donner pour moi plus l'émerveillement, etc., bien sûr, et aussi de donner l'espoir, c'est de cultiver l'optimisme, de cultiver une vision d'un futur souhaitable. Et ça, comment on le fait? C'est en rassurant, en fait, en, déjà en comprenant bien le problème, donc en expliquant bien les problématiques. Et nous, c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans, chez Merci Mercredi, c'est qu'on explique le pourquoi du comment, à chaque fois qu'on fait des livrets, etc., pourquoi le réchauffement climatique, pourquoi le corail disparaît. On nomme, on dit les choses, mais on donne des clés et des solutions, même des toutes petites, pour leur donner le pouvoir et de se dire qu'ils peuvent faire quelque chose. En fait, c'est les mobiliser, parce qu'on sait très bien que face à des crises comme on traverse, si le seul moyen de s'en sortir, c'est l'action. Le seul moyen de ne pas perdre espoir, c'est d'être dans l'action. Donc, les enfants, ça va être des petites choses. Ça va être apprendre à recycler. Et après, si on peut le faire en plus avec de la créativité, de créativité dans la joie, c'est encore mieux. Donc, par exemple, c'est pour ça que nous, on fait apprendre à recycler. On en fait un costume de baleine, des choses comme ça, quoi. Voilà.
D'accord.
Et après, on peut aussi agir, après leur donner des clés plus concrète d'action sur la biodiversité aussi, qui va être comme faire fabriquer un abri à hérissons, des choses comme ça, qui leur donnent, eux, à leur niveau, un pouvoir d'action.
Oui, donc du coup, en parler, puisque c'est vrai que de toute façon, nos enfants sont de plus en plus informés, hein, et donc, ne pas en parler, c'est nier une réalité dont au final, ils entendent parler. Les émerveillés remettent un peu des paillettes dans les yeux, et puis aussi les mettre dans l'action, quoi, si je comprends bien. Thibaut, du coup, toi aussi, c'est ce que vous essayez de mettre en place dans les ateliers des déclics quand vous abordez justement ces sujets-là avec les enfants.
Ouais, du coup, le meilleur moyen qu'on a trouvé au déclic, nous, c'est de les sensibiliser sur ces thématiques par le jeu. Et donc, en fait, on fait des grands jeux sur différentes thématiques. Donc, ça peut être les abeilles et la pollinisation ou l'interdépendance entre les primates et les forêts. Donc, par exemple, si je prends cet exemple, l'idée, c'est de sensibiliser les enfants sur ce sujet. Et donc, les enfants sont immergés dans un imaginaire où, par exemple, l'imaginaire d'une famille de primates qui est menacée par la déforestation en Amazonie. Et du coup, leur mission, ça va être, en tant que primate, ça va être de participer à la régénération de la forêt en mangeant des fruits et après en disséminant les petites graines rejetées à la suite de cette action de manger des fruits à travers la forêt pour participer après. Les graines qui seront disséminées vont participer après à la naissance de nouveaux arbres. Et donc, du coup, le jeu est un peu sous forme de mission problématisée. Et donc, ils doivent résoudre cette mission en coopérant à travers un grand jeu et à travers différentes étapes. Et donc, voilà. Et puis après, à la suite du jeu, il y a souvent des phases de discussion pour un peu plus expliquer la thématique et les enjeux de la vie réelle. Mais du coup, nous, c'est ce qu'on fait au déclic, c'est que comme disait Angela ou Barbara, de mettre de l'optimisme tout le temps dans ça et d'aborder ça de façon positive. Et donc, par le jeu, ça marche souvent très bien.
Oui, puis il y a une certaine forme aussi, voilà, de d'empathie vis-à-vis des autres êtres vivants, dans ce que vous proposez aussi, qui est intéressante également. Je vois qu'on a une question justement sur ce sujet. Toujours, à partir de quel âge finalement peut-on ou doit-on parler de la situation ? Enfin, j'imagine que voilà, effectivement, pour les petits, est-ce que au final on doit en parler aussi ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, j'ai peut-être un élément de réponse. Ce qu'on a observé au déclic, c'est que en dessous de 5 ans, c'est peut-être… en tout cas, nous, avec les activités qu'on met en place, c'est parfois plus compliqué. C'est parfois plus compliqué d'attirer l'attention d'attirer l'attention de l'enfant sur ces thématiques. Et on a l'impression que son développement n'est pas encore assez mature pour après appréhender ce genre de thématique. Mais euh, Mais bon, peut-être que c'est lié aussi à nos activités. Je laisse peut-être compléter Angela ou Barbara.
Barbara, est-ce que toi, enfin, les ateliers que tu proposes, au final, s'adressent même aux plus petits? Enfin, comment tu nuances en fait en fonction de l'âge?
Ben après, il faut s'adapter à chaque fois à l'âge en question. Mais pour moi, pour répondre à la question, c'est à quel âge on peut et on doit. Pour moi, c'est dès le départ, en fait, c'est un apprentissage dès tout petit. Alors après, on ne va pas parler comme on disait, d'effondrement ou des choses comme ça. De toute façon, on essaie d'utiliser les bons mots. Mais pour moi, de sensibiliser ou justement de protéger le vivant, de dire aux enfants attention, les insectes, ils nous servent, etc. Ce discours-là, on peut l'avoir dès tout petit. Donc pour moi c'est dès le départ en fait, parce que sinon après justement ça en devient le sujet, genre alors tu sais on s'assoit, on en parle et
La
juste
bombe, qui est lâchée tout d'un coup.
voilà, et de vivre avec pour en faire des enfants le plus résilients possible justement.
Et Angela, bah voilà, votre maison d'édition propose des livres qui s'adressent également enfin, aux tout petits. Donc,
Oui.
il y a effectivement bah, des moyens de faire passer des messages sans peut-être dire ces mots un peu qui peuvent vraiment faire peur, mais.
Bah, le livre, c'est vrai que c'est un biais assez magnifique pour ça, parce que Thibaut parlait tout à l'heure de jeux. Bah, nous, c'est ce qu'on fait avec nos livres, en fait. On a des documentaires pour les petits, hein, c'est nos suies du doigt, donc où on suit une espèce menacée dans son environnement. Il va y avoir plusieurs chemins. Et en fonction du chemin qu'on va prendre, eh ben, on va découvrir des choses différentes sur la vie de cette espèce et ses interactions avec le reste du vivant. Et de fait, c'est super pour les tout petits de 2 ans et demi, 3 ans, parce qu'eux, ils vont juste suivre comme ça avec leurs doigts. Et puis nous, on va ex leur expliquer ce qui se passe, leur lire les choses. L'adulte accompagnant va faire ça. Et puis, bah, l'enfant, on pose des questions où il joue. Il y a des choses qu'il ne va pas retenir. Bien évidemment, à 2 ans et demi, voilà, on ne va pas retenir que les chiffres sur combien il reste de loups en France aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais par contre, ils vont l'entendre en fait. Ils vont essayer de le. Ils vont voir quand on suit du doigt qu'on arrive là, que ah, il y a un petit humain et qu'en fait, on explique en fait, le loup, c'est pas dangereux pour l'humain. Et qu'un loup, en fait, c'est dans les contes, ils sont méchants, mais dans la vraie vie, bah voilà, ils s'approchent pas spécifiquement des hommes. Donc voilà, il y a plein de choses. Les enfants, ils peuvent comprendre plein de choses à tous les âges. Maintenant, ils retiennent en fonction de l'âge dans lequel ils sont. Et puis, bah, des tout petits, c'est aussi très. Un enfant tout petit, il est plutôt dans le positif. Tout de suite, il est dans la joie. Il va retenir, je pense, aussi plutôt tout ce qui est. Qui l'amène à être joyeux et le reste, ça va venir un peu plus tard. Il y a vraiment des phases en fait. Moi, c'est ce que j'observe en tout cas.
En tout cas, de ce que je retiens, c'est qu'on peut faire comprendre quand même un certain nombre de choses par rapport à voilà, la réalité qui est la nôtre derrière et qu'on doit pas effectivement cacher, mais sans forcément employer voilà, le même vocabulaire que pour un enfant plus grand ou un adulte et qu'on peut faire passer des messages tout en restant sur des choses bah, qui sont positives et qui mettent bah, les enfants dans l'action et dans l'émerveillement quoi. Enfin, voilà. Du coup, j'ai vu aussi un autre commentaire passer dans le chat et j'invite ben, des personnes qui nous écoutent à continuer à poser des questions sur l'émerveillement à la nature, que au final, c'était les enfants, des fois, qui poussaient les adultes à s'émerveiller. Et c'est vrai que en fait, parfois, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que les parents sont parfois dans une forme d'apathie par rapport à tout ce qui se passe et ne sont pas toujours très inspirés pour savoir comment aborder tous ces sujets, cette transition écologique. Parfois, il y a certains adultes qui se disent bon bah nous c'est fini pour nous entre guillemets c'est trop tard on peut plus changer mais ça va être à la jeune génération de faire ça. Or on sait très bien chez Edenic ben pour créer la bascule qui est nécessaire à la transition écologique il faut réussir à embarquer tout le monde et la question qu'on se pose c'est que au final tout ce qu'on fait là est-ce que ça sert pas aussi à sensibiliser les parents?
Euh, Oui, alors la question sur juste comment les sensibiliser, ses parents, ou en fait c'est aussi c'est notre génération qui prenons de plein fouet aussi la crise, donc c'est difficile. Nous, on a connu un avant, un après, donc c'est sûr que ça peut générer, on le sait, de l'angoisse et pas savoir quoi faire. Mais justement, encore une fois, pour sortir de cette apathie, pour sortir de cet état de sidération, on va dire, la meilleure façon, c'est l'action. Et on sait très bien, enfin, la première chose à dire aux parents, c'est qu'ils ont un rôle crucial, en fait. Ils ont un rôle crucial, justement, dans cette mobilisation. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, comme on disait tout à l'heure, ils ont un rôle de passeur de nature. Et c'est le premier rôle, en tant qu'éducateur, ils ont un devoir d'éduquer leurs enfants à la nature et pour en faire des gardiens de la nature, en fait. Et donc, si on le voit de cette façon... on se sent moins submergé, en fait. On se dit qu'en tant que parent, ben, j'ai un rôle, comme j'apprends mes enfants les règles de base d'éducation, ou je sais pas, apprendre à être poli, apprendre à dire merci, ben, c'est apprendre à protéger la nature, c'est apprendre à la connaître, et c'est un vrai rôle, en fait. Je pense que c'est mobilisant. Et comme on disait, c'est un acte militant et c'est un acte concret, en fait, de changement et d'action.
Angela,
Oui, ouais. Moi, je pense que pour créer un mouvement de bascule, effectivement, on a besoin de tout le monde et qu'il n'y a pas vraiment d'âge requis, en fait. À tout moment de nos vies, on peut activer quelque chose en nous et pour participer justement au changement. Et parfois, les gens, les adultes d'aujourd'hui, alors qu'ils n'ont pas eu de sensibilisation, eux, comme certains de nos enfants peuvent l'avoir aujourd'hui, ils ont des choses à rattraper, ils ont des choses à déconstruire. Donc, c'est vrai que plus on sensibilise tôt et plus ça, pour les futurs adultes, ce sera plus évident. Alors que forcément, selon son histoire, sa culture, etc., on a plein de choses à voilà, on doit se débarrasser de plein de choses. Donc, déconstruire, ça prend du temps. Et on peut pas, voilà. Je pense qu'il y a certains adultes qui prennent ce temps-là, et les enfants peuvent les aider justement. C'est de là que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un enfant, on apprend d'un enfant. Et aujourd'hui, il y a des enfants qui sont beaucoup plus sensibilisés que leurs parents, et je pense qu'ils ramènent à la maison des choses qui peuvent faire tilt aussi chez les adultes. Il n'y a pas d'âge, en fait, vraiment. Je pense que là-dessus, c'est assez important.
Thibaut, je te
vois
réagir.
Ouais, non, mais bon, dans le prolongement de ce que dit Angela, c'est que c'est vrai que si je me mets à la place de parents, je pense que c'est hyper compliqué pour beaucoup de parents de changer leurs habitudes à titre personnel, d'adopter un nouveau mode de vie plus responsable, parce qu'ils ont vécu des dizaines d'années comme ça, et puis maintenant on leur demande de tout changer. Donc je pense que ça peut être super compliqué pour eux. Et du coup, le fait que ça puisse venir, que le souffle puisse venir de leurs enfants, je trouve ça hyper vertueux parce que je pense que ça peut être super efficace que l'enfant soit... l'enfant va pouvoir agir un peu comme un catalyseur auprès des parents. Il va peut-être encourager ses parents à privilégier... la marche à pied ou le vélo par rapport à la voiture. Il va inciter à plus recycler, à plus réutiliser, plus réparer des choses qu'on avait tendance à jeter auparavant, des actions du quotidien comme ça. Et donc je pense que le fait que l'enfant soit moteur sur ces sujets peut être beaucoup plus efficace que n'importe quelle autre chose. Après, c'est super que des formations comme ce que propose Edeni existent. Mais je pense que les enfants ont un réel pouvoir là-dessus pour amener des changements de comportement chez leurs parents.
En effet, il y a beaucoup de parents qui sont stimulés, des participants effectivement aux formations des dénis qui sont vraiment stimulés par le fait de devenir parents, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous met en action. Je vois une réaction, attendez, je regarde. Oui, c'est dur. Oui, c'est dur de changer. Et oui, on fait des petits pas. Mais effectivement, c'est important de montrer l'exemple à ses enfants. Oui. Bah voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est de, avec Edeni, hein, avec nos formations, avec tout le contenu qu'on propose, c'est de vous donner des idées de petits pas et pour vous aider progressivement dans votre transition. Je rebondis sur ce que disait Angela aussi, qui parlait de déconstruire certains schémas qui sont existants, notamment dans nos constructions à tous en tant qu'adultes. Voilà, on s'est construit sur des schémas, une société patriarcale, capitaliste, pas toujours inclusive des différents êtres vivants, les hommes et les femmes, enfin voilà, les autres, les autres, enfin voilà, toutes les autres espèces, etc. Et du coup, la question qu'on se pose assez souvent dans les formations avec les parents, c'est comment, en fait, on ne retransmet pas finalement ces stéréotypes qu'on peut avoir et qui sont finalement un peu ancrés en nous, hein, puisqu'on a été éduqués comme ça et on est le produit de cette société. Voilà, comment on fait pour ne pas retransmettre ça à nos enfants?
Ouais, bah, si vous voulez, je peux. Enfin, j'ai un élément de réponse. Je pense que ouais, bah, déjà c'est très compliqué, mais je pense que faut un peu faut un peu tout remettre en question. Mais je pense que c'est en montrant à son ou ses enfants une multitude d'exemples de parcours de vie. Donc, en montrant qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas unicité de parcours de vie, donc c'est possible de ne pas avoir d'enfant, c'est possible de jouer au foot en étant une fille, c'est possible de se marier à 40 ans comme à 20 ans, c'est possible d'être charpentier alors que papa et maman sont tous les deux médecins. Enfin voilà, je pense qu'il faut vraiment essayer de tout remettre en question et de dire que de faire comprendre à son enfant qu'il n'y a pas du tout unicité pour tous les choix qu'il va entreprendre ou qu'il va dans sa vie. Et que toutes les voies sont possibles et que s'il a envie voilà s'il a envie de faire telle chose alors que la majorité des enfants de son âge font le contraire et ben il a totalement raison et c'est son droit et il faut l'encourager dans cette voie-là si c'est son souhait à ce moment-là.
Et ça résonne beaucoup finalement avec ce qu'on disait sur la reconnexion à soi, quoi. Enfin, c'est permettre à l'enfant d'être reconnecté aussi à ses envies, reconnecté aux autres et puis trouver sa propre voie, quoi, au final.
Oui, parce qu'en fait, bah, peut-être pour compléter, ça me fait penser à d'autres choses, Amandine, c'est que bah, enfin, bon, c'est peut-être, non, c'est complètement en lien, c'est que souvent on observe, enfin moi j'ai observé dans mes études, c'est qu'à la fin d'études qu'on peut faire, qui poussaient ou non, enfin, on voit, enfin moi je le vois dans plein d'amis ou de connaissances. C'est que y a clairement une crise de vocation, une crise de vocation et de passion. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de choix par défaut pour soit contenter des impératifs que nos qu'on nous que nos familles nous a posés ou par rapport au regard des autres. Et donc du coup on n'a pas fait forcément on s'est pas posé beaucoup de questions à ce moment-là quand on était plus jeune. Et on n'a pas eu, on nous a pas donné les clés aussi pour se poser les bonnes questions. Et on n'a parfois pas fait des choix ou alors fait des non-choix ou des choix par défaut. Et donc du coup, on se retrouve après un peu rétrospectivement en disant que qu'est-ce qu'on fait là ou pourquoi j'ai fait tout ce parcours. Ou alors ça arrive plus tard aussi quand après 2, 3 ans ou même 10 ans dans un métier. Donc il y a enfin, voilà, ça arrive un peu comme un boomerang plus tard. Donc le mieux à faire, c'est de se poser, enfin de créer son parcours, enfin faire des choix dès le plus jeune âge pour ne rien regretter plus tard.
Barbara, je te vois réagir.
Oui, pour s'assurer de sortir des vieux schémas et justement pouvoir se questionner, tout ça, je pense qu'il faut leur donner des clés aux enfants et il faut leur apprendre à développer leur esprit critique, c'est-à-dire à toujours se questionner, ne pas réceptionner un savoir comme ça, de façon très verticale, qu'on nous apprend et donc on recrache, mais à chaque fois challenger et de leur apprendre à chaque fois de dire mais pourquoi, de se questionner, de vraiment de développer leur esprit critique. Et on développe leur esprit critique sur certains sujets. Donc, je pense notamment quand on met les lunettes féministes, maintenant il y a des grilles de lecture pour savoir si on est dans un conte sexiste, etc. Ça s'était développé. On commence à leur apprendre aux enfants à déconstruire justement, mais il faut faire la même chose par rapport au niveau écologique. Et pour cela, pour pouvoir apprendre à décrypter, à savoir si on se retrouve dans les vieux schémas, c'est de sensibiliser, d'apprendre de plus en plus. Et c'est parce qu'on connaîtra et parce qu'on connaît, donc c'est par l'éducation et d'apprendre tout simplement qu'on arrive à décrypter et à développer son esprit critique.
Donc du coup, l'enfant qui vous demande pourquoi, 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 finalement, c'est, c'est plutôt bon signe. Angela, je te laisse compléter si tu veux, enfin ce sujet que tu nous as voilà justement amené en parlant de déconstruction.
On en revient aussi à, je trouve, à la diversité, c'est-à-dire dire aux enfants, voilà, regardez le monde, il y a de tout quoi. Donc il faut de tout pour faire un monde, comme dans cette fameuse série des années 90, Arnold et Willy, avec un super générique que les trentenaires et quarantenaires connaissent. Et voilà, du coup, personne dans le monde ne marche du même pas. Et ben, c'est la vérité, quoi. C'est vraiment il y a tellement de choses qui se passent autour que on peut tout faire. En fait, il faut laisser s'effondrer les barrières quelque part. Et puis, il faut aussi être, comment dire, arrêter de se culpabiliser, j'allais dire un peu à la cool, mais parce que, voilà, on n'a pas besoin. Ils voient par eux-mêmes aussi, ils rencontrent par eux-mêmes, ils font leurs expériences de la différence, de leur différence, de celle des autres. Et parfois, on essaye de leur apprendre trop de choses, d'en faire aussi des enfants hyper savants, faut tout connaître, attention, etc. Et je pense que non, il faut les laisser aussi vivre tout seul, tout ça, en fait. Comme dans la nature, c'est un bazar organisé. Voilà, c'est pareil chez nous, quoi. Donc, il faut leur laisser l'opportunité de découvrir le terrain de jeu énorme qu'on a dans notre essence, donc avec entre humains, mais aussi avec le reste du vivant. Et puis après, c'est pas toujours facile. Là, je dis ça, ça a l'air hyper simple comme ça, mais comme tout le monde, j'ai des enfants et parfois j'ai mes propres peurs. Mais faut y aller à la cool, quoi. Parfois, il faut savoir se laisser aller et se dire c'est pas grave.
C'est bien que tu évoques ça, Angela, un peu de lâcher prise. C'est ce qu'on essaye de transmettre aussi aux parents qui assistent à notre classe virtuelle sur la parentalité éco-responsable. C'est aussi d'essayer de ne pas se mettre non plus trop de pression, parce que quand on est parent, on se met déjà énormément de pression. Quand on est écolo, on se met beaucoup de pression. Donc, quand on est un parent écolo, c'est la double charge mentale. Et effectivement, merci de rappeler ça aussi pour nos parents qui nous écoutent, essayer aussi laisser aller aussi un petit peu, et puis de suivre ce que voudra faire son enfant. Eh bien, on va bientôt arriver à la fin de cette conférence qui est vraiment passionnante. Je vous remercie tous les trois. Alors, on approche Noël, donc du coup, on aime bien les petits cadeaux quand même chez Edeni, hein, les cadeaux zéro déchet. Possible, mais du coup je voulais que vous partagiez. Vous nous avez déjà donné beaucoup de références et je vous en remercie, mais est-ce que vous auriez une dernière inspiration ou citation ou référence que vous voudriez partager avec nos auditeurs? Barbara?
J'y vais. Mais je vais prendre des citations. Nous, c'est vrai que y a la citation qui dicte un peu tout l'ambition de Merci Mercredi et puis qui nous inspire, mais c'est évidemment celle de Gandhi, de que tout le monde connaît, soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est la première, mais si du coup, peut-être pour en donner une autre et pour montrer toujours l'espoir et de continuer malgré tout, et surtout dans la situation dans laquelle on est, qui est un peu morose en ce moment avec le Covid, etc., c'est une citation de Martin Luther King Il dit, si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier.
Merci Barbara. Thibaut, ton petit cadeau.
Ouais, bah, du coup, il y a un vieux, dicton scandinave qui dit que il n'y a pas de mauvais temps, que des mauvais vêtements. Et donc, bon, bah, on est tous pareils. Hein. Quand on regarde par la fenêtre et qu'il pleut, on a pas du tout envie de sortir dehors. Mais parfois, il faut un peu se forcer, se motiver, voire se forcer pour faire le premier pas dehors. Et par expérience, c'est souvent les meilleurs moments. Les meilleurs moments sont souvent, voire toujours sous la pluie dans une vie. Et donc, il faut juste faire le pas et prendre une grande dose de motivation, bien s'équiper. Et du coup, prends les bons vêtements. Et après, on vit de super expériences dehors, même sous la pluie ou sous la neige. Et en fait, les enfants, ils n'ont pas peur du mauvais temps, ils n'ont pas peur d'avoir froid. Ça, c'est vraiment un problème d'adulte. Et donc, moi, j'étais souvent surpris à quel point les enfants n'avaient pas froid et nous, on avait hyper froid en tant qu'animateur. Et donc, donc vraiment, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant de le laisser jouer dehors si on lui explique aussi tout ce qu'il peut faire comme jeu ou comme chose dans la nature dehors.
Bon, ça trouve écho auprès de nos auditeurs. Il y a aussi à quoi ça sert de faire des vêtements si on ne peut rien faire dedans sans vouloir faire de pub. Mais effectivement, voilà, et je vois... Les parents qui votent, qui vantent les mérites des combis intégrales imperméables pour aller sous la pluie avec les enfants. Ouais. Donc voilà, donc vous partez avec plein d'idées pour vous équiper. Et Angela, je te laisse terminer.
Et moi, je n'avais pas de citation, mais je voulais lire un petit extrait de L'Arbre lit, qui est un de nos livres. Alors, ce n'est pas du tout pour faire la promo de La Cabane Bleue, c'est juste parce que je trouve ça beau de lire une histoire. Et donc, je lis un petit passage. Ouais. En fait, L'Arbre lit, c'est l'histoire de Valentine, une petite fille dont le papa lui va construire en fait un lit avec le vieux poirier du jardin qui est malade. Donc voilà, il coupe le poirier, il en fait un lit. Et le soir, ce lit s'anime et il raconte plein d'histoires à la fillette. Il lui transmet plein de belles choses, plein de belles histoires. Puis un soir, il se tait et elle ne comprend pas pourquoi. Et donc, c'est à partir de là. Donc, c'est l'arbre qui parle. Cette nuit, j'ai entendu le rossignol. Il pleure et se lamente, car on m'a coupé sans me remplacer. Valentine est si bouleversée qu'elle éclate en sanglots. Les larmes de la petite fille touchent le poirier, pénètrent son cœur. Valentine s'endort. Une feuille s'éveille. Au matin, une branche a poussé. Curieux, le rossignol s'approche. Le vieux poirier s'est tu. Le vieux poirier s'est tu, chante-t-il, mais il a laissé un nouveau-né pour le remplacer. Au milieu du jardin, Valentine a planté l'arbuste. Il a pris racine. Il pousse bien. Il grandit si vite que bientôt, il rattrapera la petite. Valentine, tous les soirs, lui raconte une histoire. Un conte de l'arbre lit, son ami. Des récits d'îles et de voyages et de ces arbres dont on fait les bateaux. Voilà, donc une pousse de l'arbre est repartie et elle l'a replantée. Et elle transmet à l'arbre qui ensuite le transmettra à d'autres. Voilà.
Merci Angela pour ce petit instant très poétique. Ça donne envie de lire effectivement tout cet ouvrage. Merci beaucoup à tous les trois pour cet échange, pour toute l'énergie et la passion que vous avez transmis sur ce sujet. Sur lesquels on pourrait encore passer des heures. Je remercie tout le monde d'avoir participé à cette nouvelle conférence EDELI, à nous avoir écoutés. On espère que cet échange vous permettra d'y voir plus clair en fait dans l'accompagnement de vos petits écolos en herbe. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour avoir le programme de nos prochaines conférences. On vous dit aussi à très bientôt dans nos formations. Moi, je retrouverai plus particulièrement les jeunes parents et les parents, parents jeunes ou moins jeunes, à partir du mercredi 13 janvier à 20h30. Je vous dis à très vite. Et puis, d'ici là, passez à tous de très, très belles fêtes de fin d'année, plein de beaux moments avec vos enfants, plein de beaux moments en pleine nature. Et à très bientôt pour une prochaine conférence EDELI.